Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une spéciale polar et thriller, genre au pluriel, mise à l'honneur, sous toutes leurs formes chez nos éditeurs préférés, à commencer par ESC Vidéo avec Hopeless de Kim Chang-un, BQHL avec Le Chien des Baskervilles de Terence Fisher, Blackout avec Quitter la Nuit de Delphine Girard, le successeur de Xavier Legrand, They Shot the Piano Player de Fernando Trueboy, Javier Mariscal, ainsi que Un homme en fuite de Baptiste Debro. Et enfin, nous irons faire un tour du côté de chez Rimini Éditions avec Il marchait la nuit de Alfred Werker et Anthony Mann et 100 jours à Palerme de Giuseppe Ferrara. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Isé Régnier, François Villa et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer thriller et polar, je suis accompagné de mes deux chroniqueurs les plus inquiétants, évidemment Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, celui que l'on surnomme le loup-garou picard. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Bonjour Thomas.
Bonjour Gégé, bonjour Damien et évidemment bonjour à toutes.
Débutons cette émission spéciale polar et thriller avec un film qu'on redécouvre aujourd'hui. Enfin bon, moi je le connaissais depuis longtemps sincèrement, mais un film en fait commencé par Alfred L. Werker, terminé par Anthony Mann, qui est sorti en 1948 et qui s'appelle « Il marchait la nuit ». Et qui vient de ressortir dans une copie magnifique. Hein, là, oubliez votre DVD à 1€ jusqu'ici que tous les cinéphiles possédaient. Qui vient de ressortir donc chez Rimini Édition. Et mon cher Thomas, toi qui es un adepte d'Anthony Mann, je me tourne vers toi.
Réalisé en 1948, Il marchait la nuit s'inspire librement de Erwin Machine Gun Walker, agent de police et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui commit plusieurs vols et attaques à main armée en 1945 et 1946. C'est au cours d'une des nombreuses fusillades qu'il échangea avec la police de Los Angeles qu'il fut arrêté en 1946. L'intrigue suit un criminel, expert en électronique, mais principalement escroc et sur la piste duquel la police sait et après qu'il ait tué un agent qui voulait le contrôler. Alors, revoyure, j'ai beaucoup plus apprécié le film quand même, malgré un aspect didactique et démonstratif qui lorgne largement vers la propagande à la gloire de la police de Los Angeles. Le film s'avère inégal, en particulier quand il s'attache à décrire le travail de la police avec une voix off omnisciente, au ton sentencieux. Cet aspect documentaire reste la faiblesse du film et on devine que ce sont les passages supervisés par Alfred Werker. Il y a notamment cette séquence qui montre comment se fabrique un portrait robot, avec des citoyens modèles et disciplinés. Dans ces passages, avec la personnification des policiers, le film s'avère plutôt lisse et consensuel, sans nuances, sans ces zones d'ombre qui caractérisent le cinéma d'Anthony Mann. Les policiers sont gentils et vertueux, mais surtout peu développés. Bref, vous l'aurez compris, on n'est pas chez James Ellroy. La patte du réalisateur de Marché de Brut et Incident de Frontières se retrouve plus dans le portrait qu'il dresse du tueur. On sent que ce personnage l'intéresse bien plus dans son ambiguïté, à la fois génie de l'électronique mais aussi escroc qui n'hésite pas à avoir recours à la violence. C'est également dans les scènes d'action et les moments de tension, durant lesquels il utilise peu ou pas du tout la musique, que se distingue le style d'Anthony Mann. Avec la complicité de John Alton à la photographie, il relie ce film semi-documentaire à la mythologie du film noir américain. Avec l'architecture particulière de Los Angeles, ses séquences nocturnes en clair-obscur, baignées de brume et son innovante utilisation du décor des égouts de Los Angeles, où se déroule une mémorable poursuite entre le criminel et la police. Décor qui fut repris d'ailleurs, ce film convainquit les producteurs à utiliser ce décor pour Vem, des monstres attaquent la ville de Gordon Douglas. Donc, Il marchait la nuit, que je recommande vivement. Une œuvre mineure pour moi, pour Anthony Mann, mais un film qui reflète bien le film noir des années 40.
Le film, pour moi, c'est une série B efficace, hein, qui est assez moderne quand même, et de par sa violence et surtout sa froideur, je trouve... Et qui est quand même centré sur la psychopathie de son principal protagoniste. Et ça, c'est quand même assez moderne, je trouve, dans la représentation du mal au cinéma, et en particulier, on est quand même en 48, donc c'est pas quelque chose qu'on voit énormément au cinéma, je dis pas qu'on le voyait jamais, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit peu. Et le film, pour terminer un peu, faire un peu le tour du film, il faut quand même savoir que même si le film était un peu tombé dans l'oubli, et que là, il est ressuscité, alors je vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, hein, toute la partie dans les égouts, les 15 dernières minutes du film sont sensationnelles. Hein. C'est... Rien que pour cette dernière partie du film, il faut voir le film. C'est absolument sensationnel. Le film a obtenu en 49 le prix du meilleur film policier au festival de Locarno. Donc à l'époque, le jury avait quand même perçu une petite patte intéressante dans ce film. Autre film, alors là, pour le coup, lui a complètement gagné ses statuts de classique, hein, un film en couleur. D'ailleurs, quelle couleur, puisque la photographie de Jack Asher, grand photographe de la Hammer, de la Hammer Film. D'ailleurs, on va parler d'un film de la Hammer Film, hein, qui s'appelle donc Le Chien des Baskerville, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Il n'est pas besoin de préciser, normalement, vous le saviez vous-même. Qui est donc la sortie chez BQHL, qui est un classique de Terence Fisher. Qui dit classique de Terence Fisher dit forcément Peter Cushing, Christopher Lee, hein, qui joue dans le film, et qui raconte la fameuse histoire du chien de Baskerville. Hein, il y a une mort mystérieuse, hein, celle de Sir Charles Baskerville. Et donc Sherlock Holmes et Watson, ils sont engagés pour résoudre le mystère, alors à la fois autour de cette mort mystérieuse, mais aussi sur la malédiction qui pèse sur cette famille depuis maintenant fort longtemps et qui se manifeste. Hein, sous la forme d'un terrible chien surgit des enfers. Donc attention, ça ne rigole pas. On est à la lisière du fantastique, tout en étant dans un grand classique, effectivement, de la littérature policière à énigmes, ou de Wood Unit, si on préfère. Mon cher Damien.
Casting 5 étoiles pour porter cette adaptation avec Peter Cushing dans le rôle de Sherlock, qui est magnifique et magnétique. Accompagné de son Watson, qui est joué par André Morel, qui est un bon compagnon de route et qu'on va suivre durant la première partie du film. Et ensuite, Christopher Lee, pas besoin d'en rajouter. Pro-héros que le danger essaye d'attraper tout au long du film. Alors, si c'est un film qui a beaucoup marché et qui est rentré dans la légende, hormis le fait que c'est fait par Terence Fisher et que c'est un film qui est super, incroyablement prenant, c'est aussi parce que sa première adaptation en couleur d'un Conan Doyle, et le film fait un travail excellent. À travers la tension et le rythme d'un bout à l'autre, je trouve que le film est extrêmement parfait. Dès l'introduction, on a cette introduction qui nous plonge dans les ancêtres des Baskerville, mais à ce moment-là, on ne sait pas trop. Il organise une fête, ses amis sont un peu alcoolisés. On comprend en sous-texte qu'il a kidnappé la fille d'un paysan qui compte violer dans sa chambre. Elle finit par s'échapper et lui, fou de rage, décide d'aller la poursuivre en lâchant ses chiens. Malheureusement pour lui, ça va se retourner un peu contre lui. Et à partir de cette légende, on commence à expliquer à Sherlock qu'il y a eu un meurtre et que les gens dans cette comté pensent que c'est lié à cette légende. Et Sherlock n'y croit pas, mais il va quand même accepter l'enquête. Et en fait, ce qui est très fort avec cette scène d'introduction, c'est que la maison où va se passer une grande partie du film est un lieu d'insécurité immédiatement. Alors qu'on dit à Baskerville « ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas », à ce moment-là, la maison est aussi une zone d'insécurité, tout comme l'extérieur. En fait, il y a ce côté, ce danger peut venir de n'importe où, danger qui est renforcé par le fait que Sherlock n'est pas là au début du film. On a juste Watson qui a pour mission un peu de débroussailler le terrain et de protéger Henry. Mais toute la première partie du film, c'est un peu un moment où on retient notre souffle en se demandant s'il va y passer ou pas. Et dans la deuxième partie, quand Sherlock arrive, c'est le moment où on s'attend à essayer de trouver, de comprendre ce qui se passe. Et pour le coup, Sherlock ne va pas non plus être protégé par ce qui arrive derrière. Et c'est un film donc, qui tient parfaitement tous ces moments de tension qui nous emmènent tranquillement d'un bout à l'autre. Alors nous, on est accrochés au film, on va savoir comment ça se finit. Si on a lu le bouquin, ça va, on sait ce qui se passe. Et ce que j'aime aussi, c'est l'apparition du chien en lui-même, qui a un petit côté marionnette avec une tête un peu en prothèse, qui est assez particulière, mais qui, moi, est un petit plaisir. À chaque fois que je vois une marionnette ou une petite prothèse dans un film, je suis assez content. Donc je dirais que c'est une adaptation remarquable et impeccable. Et si vous voulez voir Le Chien de Baskerville de Terence Fisher, c'est disponible chez BQHL.
Oui, BQHL qui a la bonne idée de ressortir ce film dans une belle copie. Et où on profite pleinement de la photographie de Jacques Achard. Moi, je trouve que c'est un film... Alors, on connaît tous Terence Fisher. Parce qu'en fait, sorti de Terence Fisher, il y a des réalisateurs intéressants comme Freddy Francis, comme John Gilling à la Hammer. Mais le meilleur, c'est Terence Fisher. Voilà. Il y a Roy Ward Baker qui, pour moi, est le numéro 2, juste derrière. Mais Terence Fisher, il a ce truc en plus. Déjà, c'est un anticlérical, ça respire. C'est aussi un anticolonialiste. D'ailleurs, Les Étrangleurs de Bombay est un film sensationnel. Et ça respire, ça suinte l'érotisme dans son cinéma. Il y a une sorte de sensualité, des couleurs chaudes et une anticléricalité qui revient tout le temps dans son cinéma, qui donne un aspect totalement subversif à son cinéma qui est assez troublant. Les meilleurs films de la Hammer sont les films de Terence Fisher. Je veux dire, il y a absolument pas photo. Et je trouve que moi, ce qui marche dans ce film, c'est que c'est un grand film sur le mal, en fait, sur un mal diffus qui est symbolisé par ces brumes-là, qui se répandent, ces couleurs un peu surréalistes, que Fisher traite par des travelling comme ça sur la lande, très élégants, qui sont assez... Alors, le film vous enveloppe, en fait, vous nimbe dans une sorte de... C'est presque... C'est un miracle cinématographique, en fait, ça ne s'explique presque pas. On est nimbé par l'atmosphère de ce film, et puis on n'arrive plus à en sortir. On est pris dedans, et on est pris dans cette intrigue. Et même quand on a lu le livre, Damien, ça marche. Et même quand on a déjà vu le film. Et en plus, moi, pour moi, c'est un peu un souvenir ému parce que c'est la dernière séance, Eddie Mitchell et tout ça. Et c'est des films de mon enfance, quoi. Voilà. Mais je pense, Thomas, que tu voulais rajouter quelque chose sur ce grand classique de la Hammer Film.
Jérôme, tu oublies de dire que Terence Fisher était aussi très préoccupé par les rapports de classe. Et je trouve que c'est très évident dans Le Chien de Baskerville. Je trouve que le prologue est extraordinaire. Alors, tu parles d'érotisme, etc. Le prologue très gothique, avec des lumières très chaudes. Et il y a une tension sexuelle, parce qu'il est question de viol. C'est un noble qui veut violer une paysanne. Je schématise un peu, mais c'est l'idée. Et puis, il y a cette fuite dans la lande vers une ruine, et je trouve que tout le prologue est extraordinaire, avec cette énorme tension sexuelle, cette violence qui est pourtant hors champ, mais il y a ce poignard qui tue cette jeune femme, hein. Et quelque part finalement les méchants ne sont pas forcément ceux qu'on croit, parce que je pense qu'à travers le chien des Baskerville, avec ce personnage de Sherlock Holmes qui est quand même assez froid, qui fait de l'humour froid, puis Christopher Lee qui est quand même assez guindé, son personnage est quand même très guindé, finalement c'est pas forcément les personnages les plus sympathiques du film, les antagonistes, en fait. Je pense que ce qu'il veut montrer, c'est qu'il y a un déterminisme social du fait de ce prologue et de cette malédiction qui a été ensuite donnée sur la famille des Baskerville.
Et ce prologue, les amis, est-ce qu'il ne vous rappelle pas un autre prologue ? C'est-à-dire exactement pareil, avec cette même obsession des rapports de classe, cette même sensualité, cette même violence aussi, celui de la malédiction du loup-garou. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est une récurrence du cinéma de Terence Fisher. Alors Terence Fisher, c'est un cinéaste passionnant, hein, de toute façon. On en a souvent parlé, mais de manière éparse. Et les échanges qu'on a aujourd'hui, parce que c'est un cinéaste d'une grande modernité en plus, hein, on ne le dit pas assez. Les films de Terence Fisher fonctionnent sur toutes les générations, je l'ai testé, et ça fonctionne encore avec les plus jeunes aujourd'hui. Il y a quelque chose d'intemporel dans son cinéma, et pourtant ce n'est pas un cinéaste de la monstration, c'est plus un cinéaste de la suggestion. Donc il faudrait qu'un jour on s'y consacre plus pleinement, les amis. Je pense qu'il y a plein de films de Terence Fisher, voire pas forcément les plus connus, comme Les Maîtresses de Dracula avec son vampire androgyne, film d'une sensualité assez démentielle, où pour une fois Dracula n'est pas interprété par Christopher Lee. Il y a vraiment chez Fisher un petit truc en plus qu'en fait vraiment un cinéaste à part. Vous écoutez Culture Prohibée. Autre film, autre ambiance, hein, on va parler d'un film sorti en 84, film qui avait un peu fâché notre star nationale Lino Ventura, qui s'était fâché avec son réalisateur Giuseppe Ferrara, film qui s'appelle 100 jours à Palerme, et là qui vient de sortir chez Rimini, dans une très belle copie. Et en plus, il y a les deux montages, hein, le montage italien, le montage français, parce que c'est une coprode. Alors, il n'y a pas vraiment de VO, c'est un film assez frustrant, en fait, parce que dans la version italienne, si on regarde, c'est pas Ventura qui se double lui-même. Alors, Ventura n'avait pas du tout apprécié ça. Parce que Ventura parle italien, évidemment. Et de l'autre côté, comme il n'y avait pas de prise de son directe, hein, chez les Italiens, on a un Ventura qui repost-synchronise, ça donne un aspect très étrange. J'ai un peu de mal à m'y faire, pas sur tous les films, mais sur celui-là, c'est un peu particulier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film, hein, 100 jours à Palerme ? C'est en fait un film dossier qui s'inscrit dans la continuité de ce que pouvait faire le cinéaste Francesco Rosi quand il faisait Main basse sur la ville ou encore Cadavrexchi déjà avec Lino Ventura. Et là, on a Giuseppe Ferrara, qui est un cinéaste qui a déjà beaucoup de bouteilles, hein, et qui s'improvise là un peu en disciple de Francesco Rosi, et qui va décider d'illustrer dans ce film, 100 jours à Palerme, la fin de vie du général Dalla Chiesa au printemps 1982, qui est un général très respecté et que l'on va faire travailler sur... Enfin, lui aussi veut y aller, hein, il pourrait aller à la retraite, mais il n'y va pas. Et qui prend un dernier poste, devenir préfet de Palerme. Et bah, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mater la mafia sicilienne. Évidemment, ça n'a pas très bien se passé avec la Cosa Nostra. Et le film va être rythmé comme ça, tout du long, par des fusillades hein, qui interviennent en ouverture et qui reviennent régulièrement dans le film. Des fusillades filmées un peu de manière vériste pour accentuer le côté film dossier quoi, un peu du film. Le général, alors, le film est assez juste sur pas mal de choses. Par exemple, on voit qu'il a une très jeune et très belle épouse dans le film. C'était le cas dans la réalité, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, les Italiens, ils ont romancé le truc, ils lui ont mis une belle et jeune actrice et tout. Mais c'était le cas dans la réalité. Parce qu'en fait, cet homme... Et on voit dans le film aussi qu'il est très, très respecté. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et ça, c'est une erreur hein, du film, parce que, en fait, il aurait fallu nous l'expliquer. Moi, en tant que Français, par exemple, je ne sais pas forcément qui est ce général Dalla Chiesa. En fait, c'est un héros de l'antifascisme. C'était quelqu'un qui était un valeureux résistant et qui, après, s'est opposé aux Brigades Rouges et a fait partie de ceux qui ont réussi à démanteler les Brigades Rouges. Donc, quand il arrive, on comprend mieux la déférence qu'ils ont tous à son égard et pourquoi ils le craignent. En fait, c'est un bourreau de travail. Il est pas facile. C'est pas facile de bosser avec lui, quoi. Il est très intransigeant avec lui-même et avec les autres. Et c'est en fait l'image de ce type qui a vraiment existé, qui était comme ça. Mais nous, on n'a pas, comme on dit aujourd'hui, son background. On le sait pas quand on voit le film. Donc c'est un peu embêtant. Et au final, le film. Alors Ventura trouve que la sortie est sacrifiée. Le film rencontre pas un grand succès. C'est un peu un film mal aimé dans la carrière de Ventura. Mais en fin de compte, c'est un film assez moyen. C'est-à-dire qu'on est en deçà du travail de Rosie. Y a une certaine dichotomie, moi, je trouve, entre la manière de filmer qu'a le film. Le montage est maladroit par instant. Et y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes intimistes et tout qui sont plutôt bien ficelées. Et en fin de compte, ce qui passe pas, c'est toutes ces scènes véristes de fusillade et tout qui viennent un peu comme un cheveu sur la soupe, qui viennent rompre le rythme par moment du film. Et Ventura est extraordinaire. C'est d'ailleurs pour lui qu'il faut voir le film. Hein. C'est comment dire, Lino Ventura est rarement mauvais. Et là, il est très, très bon. Je pense qu'il s'est beaucoup investi sur le film. D'où le fait qu'il était pas très content au final de voir la sortie du film sacrifié. Et ce qui m'embête un peu, c'est que le réalisateur, en fait, il a pas le courage de Francesco Rosi. C'est Francesco Rosi, il y allait franco. Hein. Il dénonçait, mais il dénonçait réellement dans ses films. C'est-à-dire qu'il affrontait la mafia. Là, en fait, ça peut être un parti pris, hein, mais comme le film est assez vériste, assez réaliste, du coup, j'ai un peu du mal à saisir parce qu'en fait, on ne connaît pas vraiment ses ennemis dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-champ. Il n'y a que l'histoire de Ventura. Et il n'y a pas... Donc, ça déséquilibre le film, je trouve. Moi, je suis à moitié persuadé par ce film. Il faut le voir pour Ventura, mais je suis qu'à moitié persuadé par ce film.
Le film, il donne tout comme ça, un peu tout cuit. Et, je ne vois pas d'aspérité, je ne vois pas vraiment de... C'est un peu lisse, je trouve.
Bon, au final, hein, moi, j'ai envie de dire... Bon, il faut le voir parce que, bon, déjà, l'édition est belle. Donc, l'édition, oui, il y a les deux montages. Donc ça, pour tout cinéphile, ben, c'est à voir absolument. Il y a la performance qui est vraiment extraordinaire de Ventura. On y croit à fond. Hein. Il est... En plus, avec le physique qu'il a, il en impose tellement, il est tellement charismatique. Il a un peu le physique qui va avec le personnage, quoi, en fait. Hein. Mais je pense que le film, en fait, Ferrara, qui vient plutôt du cinéma... Moi, il vient pas du cinéma d'auteur en fait. Et on sent qu'il a des volontés autorisantes. Il veut faire un film plus ambitieux que ce qu'il fait d'habitude. Et il n'arrive pas à choisir entre un cinéma d'action spectaculaire, les scènes de fusillade très réalistes, tout ça qu'il y a entre deux, et qui viennent rythmer le film un peu comme ça. On a l'impression qu'il y a des intermèdes d'action entre les scènes de dialogue. Et je pense qu'il n'arrive pas à se situer, le réalisateur, et ça manque un peu de point de vue du metteur en scène. Ce qui est toujours très intéressant, c'est que, par contre, le film retranscrit ce qu'est la Sicile de la fin des 70, début des années 80, sous l'emprise de la mafia, Et c'est singulier, c'est assez effrayant, en fait, de voir cet univers-là. Mais on est en droit de préférer, par exemple, la représentation qu'on a fait Fernando Di Leo, par exemple. Et puis, dans le même genre de film, les films d'Ossier, dans ces cas-là, effectivement, Francesco Rosi a un point de vue, en tout cas, c'est un metteur en scène qui impose un point de vue plus fort.
Ou même Damiano Damiani, il a fait des grands films sur la mafia. Seul contre la mafia fait la loi, c'est des films excellents.
Hein. They Shot the Piano Player, alors on rappelle, hein, le film avec Lino Ventura, il est disponible chez Rimini et il s'appelle 100 jours à Palerme. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial polar et thriller. On va vous parler d'un film qui un peu particulier, qui s'appelle They Shot the Piano Player. Ils ont flingué le joueur de piano, quoi. Bon, évidemment, ils ont tiré sur le pianiste. Hein, il y a une référence à tout ça. D'ailleurs, dans le film, c'est assumé. Il y a des références à Truffaut. Il y a une évocation de la nouvelle vague dans le film très claire. Et aussi, le film paye son tribut, j'ai envie de dire, au roman noir. Alors, le film est assez particulier, ce film-là qui vient de sortir chez Blackout, c'est que, alors c'est un film récent, c'est un film qui est sorti je crois en France en 2023, au départ, l'un des deux co-réalisateurs, Fernando Trueba, lui, il veut faire une enquête sur la disparition, parce que c'est une histoire vraie, hein, d'un certain Francisco Tenorio Jr., qui est un vrai musicien, un vrai génie de la bossa nova, un pianiste, qui, pendant une tournée en Argentine, une nuit, a disparu. Mais il a disparu, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais retrouvé, on n'a jamais retrouvé son corps, on n'a jamais retrouvé... Alors, une histoire que moi, je ne connaissais pas, personnellement, hein, et qui est, comment dire là, traitée d'une manière particulière, c'est-à-dire que le réalisateur va faire son enquête, hein, et ce qu'il voyait au départ comme un documentaire... il se dit que ce serait mieux s'il en tirait une matière différente. Donc il va inventer une sorte d'alter ego qui va être un journaliste américain, hein, qui est joué par Jeff Goldblum, en fait, qui lui est un fada de jazz, hein, Jeff Goldblum, donc, qui cette histoire donc, doit donc tenir à cœur. Il va s'associer avec Javier Mariscal, parce qu'ensemble, ils avaient déjà fait un film d'animation, Chico et Rita. Et puis, ce documentaire animé va voir, en fait, l'histoire de ce journaliste qui, au départ, veut faire un livre sur l'histoire de la bossa nova et qui, au fur et à mesure de ses rencontres, et puis surtout par hasard, en découvrant un disque, va tomber amoureux de la musique de Tenorio. Et il va découvrir que ce type n'a fait qu'un disque. Il va se demander pourquoi. Il va découvrir qu'il a disparu. Il va découvrir que ce type était considéré comme une vraie légende par tous les gens avec qui il avait travaillé, un musicien exceptionnel. Et du coup, il va complètement abandonner son projet de livre et faire une enquête sur la disparition de cet homme, surtout qu'il va découvrir qu'il y a des tortionnaires argentins, puisque c'est l'époque du coup d'État, c'est l'époque, au moment où il disparaît, on est dans les années 70, c'est l'époque du coup d'État, des milices, et de toute façon, évidemment, on va très vite découvrir que cet homme a été raflé, en fait, et voilà. Et c'est ça l'histoire, mais là où le film est assez intéressant, c'est que c'est à la fois un documentaire, à la fois un polar. C'est traité comme un polar, cette enquête. Il y a des moments assez angoissants. C'est aussi un film sur l'amour du cinéma. Il y a des références au cinéma qui viennent se greffer. Et c'est un vrai film qui raconte aussi l'histoire de la bossa nova. Donc ça donne un objet filmique assez particulier avec des vraies ambitions de mise en scène. Alors le style graphique, on aime ou on n'aime pas, hein, le style graphique qui est adopté pour dessiner les personnages et tout ça. Mais il y a des vrais mouvements de caméra, des panoramiques, la caméra panote. Enfin, il y a des vrais, moments de cinéma dans le film. Et surtout, il y a les vraies voix, des vraies légendes de la bossa nova que Trueba a rencontré, donc on entend dans le et qu'on voit mis en dessin animé, donc hein, entre autres Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfin pour citer les plus célèbres, mais il y en a plein. Et petit à petit, l'enquête va évoluer pour cet homme qui va découvrir alors à la fois la personnalité de ce musicien, son importance dans l'histoire de la bossa nova, plus globalement toute l'histoire de la bossa nova, mais aussi toute une histoire politique, celle de la dictature en Argentine, et celle aussi, parce que ça c'est très bien souligné dans le film, de la mainmise des USA, et aussi de tous ces coups d'État et de tous ces renversements qui ont eu lieu en Amérique latine à cette époque.
C'est un film qui est quand même assez prenant, qui est quand même assez intéressant. On est vraiment dans un film d'enquête, un documentaire d'enquête. On remonte les pistes petit à petit, et puis ça rejoint donc cette histoire politique. Hein. On apprend plein de choses sur ces rafles qui n'ont pas lieu qu'en Argentine. Hein. Les mecs qui vont chercher les gens très loin, hein, où certains retrouvent des membres de leur famille loin, alors qu'ils ont été enlevés en Argentine ou au Brésil. Moi, j'aime bien le graphisme. Je trouve que ça fait très très bande dessinée en fait.
Non, vraiment une belle découverte que They Shot the Piano Player, donc de Fernando Trueba et Javier Mariscal, qui est disponible chez Blackout. Alors chez Blackout également, un film sud-coréen, un premier film de Kim Chang-un qui s'appelle Hopeless. Sans espoir, je crois que c'est un titre qui résume assez bien le film d'ailleurs, voilà, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va progressivement, c'est un jeune garçon assez torturé, malheureux, dont la mère et lui sont victimes d'un beau-père, et puis il a une demi-sœur qui est aussi victime, hein, quelque part, hein, voilà, d'un beau-père alcoolique, violent, et il va petit à petit s'intégrer dans une organisation criminelle. On découvre que dans cette petite ville, le racket et puis surtout le système d'usure, hein, par le biais d'usurier, donc fonctionne très très bien. Hein, c'est visiblement une sorte d'économie locale dans l'économie. Et bien sûr, évidemment, on est dans un monde très 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 violent. C'est très violent comme film. Hein, petit à petit, ce garçon va rencontrer un peu son double en fait. Hein, c'est en plus vieux, qui lui est devenu le chef du gang et va se nouer entre eux une relation, alors peut-être de frère, peut-être de père-fils, peut-être même homoérotique, à vous de voir ce que vous avez envie de voir. Mais en tout cas, mon cher Damien, un premier film qui, s'il n'est pas complètement abouti, je pense qu'il aurait gagné à faire une demi-heure de moins, par exemple, mais parce qu'une fois que les enjeux sont posés, il se répète inlassablement. Mais par contre, un film très intéressant et qui laisse augurer quand même une carrière d'un grand réalisateur pour ce Kim Chang-un qui nous laisse quand même avec ce premier film un vrai uppercut dans la face.
Hopeless est un film coréen qui s'est fait remarquer au point qu'il a été diffusé en hors compétition à un certain regard à Cannes. Son titre original, désolé pour la prononciation, c'est Waran, qui signifie Hollande, parce que le jeune homme qu'on suit, Young, son rêve, lui, c'est de partir en Hollande parce qu'il a entendu que là-bas, tout le monde était gentil, que tout le monde y était heureux. C'est un film qui interroge finalement sur ce jeune homme qui a un âge où il va chercher un minimum de liberté et un minimum d'être heureux. Il doit se décider d'un avenir, finalement, d'une direction à prendre, et il ne sait pas trop laquelle. Alors lui, il voudrait la Hollande, parce que voilà, tout le monde est beau, tout est gentil. Mais dans la ville dans laquelle il vit, c'est pas une ville très réjouissante, c'est une ville assez sombre. Et comme tu l'as dit, il y a ce petit groupe assez mafieux, on va parler de mafieux, qui dirige un peu tout ce qui s'y passe. Système d'usure, en effet, quand ils sont volés une moto, ils demandent à emprunter. Lorsqu'ils ont des dommages qui sont faits à leur boutique, ils demandent à emprunter. Les personnes qui volent et qui endommagent, c'est les mafieux eux-mêmes. Donc ils s'auto-enrichissent à travers ça. Et la question de liberté de notre jeune homme est d'autant plus pesante que, comme tu l'as évoqué, son beau-père, qui est souvent absent mais qui rentre la nuit alcoolisé et extrêmement violent, en profite pour frapper son fils. Sans doute également la mère, mais la mère est un personnage un peu fantôme. Et au final, notre héros, il va développer une véritable relation, ce qui va commencer à être une relation familiale avec justement ce petit chef mafieux qui a des supérieurs, mais qui, dans le quartier, gère énormément de choses. Et entre eux, ils vont développer, à mes yeux, une relation très fraternelle. C'est pour ça qu'ils s'appellent frères. C'est peut-être un truc dans l'organisation mafieuse pour consolider les liens, mais le truc qui est intéressant, c'est qu'il lui pose une question, il lui demande d'où il vient, il lui explique qu'il est né dans le quartier et qu'il a toujours été là, et le chef mafieux lui répond, lui aussi il est né dans ce quartier, il a toujours été là, et indirectement il a un aperçu de ce que pourrait être son avenir s'il reste ici parmi eux. Le truc qui est intéressant avec les mafieux, c'est quand ils arrivent dans le film, ils ont un petit côté libérateur, c'est-à-dire que quand notre personnage est dans une situation de galère, tu les vois arriver, t'es soulagé parce que tu te dis heureusement ils vont l'aider, et derrière ils créent en même temps une tension, parce que là où ils arrivent, ils imposent eux-mêmes leurs règles. Par exemple, il y a un moment où son père veut essayer de le frapper, les mafieux arrivent, il y a un instant de soulagement, on se dit son père va pas le frapper, sauf que l'entrée des mafieux est très marquée par un plan qui est très simple, ils ouvrent la porte, et le second plan qu'on a, c'est les chaussures qu'on retire normalement avant de rentrer dans la maison, qui sont posées à l'entrée, et on voit juste le pied du mafieux qui ne retire pas ses chaussures, qui rentre directement dans la maison, qui arrive et qui impose automatiquement le calme et le respect par sa présence. Il y a des petits plans comme ça qui fonctionnent. Après, il y a des plans qu'ils tentent mais qu'ils ne réutilisent pas, notamment un plan avec une caméra qu'ils vont défoncer, qui est un plan qui apparaît ici. Mais il y a 2-3 points que j'aime beaucoup, notamment un moment où notre héros vient de commettre l'irréparable, qu'il part à moto et qui a un entrecroisement assez simple mais efficace de ce qu'il a fait avec la moto qui est en train de dérailler et de perdre finalement la direction qu'il devait prendre de base. Et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où il tue, le meurtre devient constamment une option qu'avant il n'avait pas envisagée. Mais c'est un film qui est extrêmement cool par d'autres points. Par exemple, on a très peu de personnages féminins forts, mais on a la sœur du héros qui lui permet d'être un rattachement émotionnel, peut-être qui lui permet de rester humain. Et au fur et à mesure du film, ça posera une question, au final, est-ce qu'il lâchera son humanité ou est-ce qu'il va la garder ? Donc c'est un premier film qui est extrêmement intéressant et qui, pour moi, met en avant quelque chose, qui est que les lieux sont les problèmes avant que ce soit les personnes.
Et on rappelle que Hopeless, donc, qui est un premier film passionnant et prometteur de Kim Chang-un, est disponible chez Blackout. Vous écoutez Culture Prohibée. Toujours chez Blackout, on va parler maintenant d'un film qui s'appelle Quitter la nuit, un film de Delphine Girard avec Selma Halawi, Verle Battens et Guillaume Duhem, qui est un film qui au départ était d'ailleurs un court-métrage, qui est en bonus dans le DVD, c'est-à-dire toute la première partie du film en fait,
qui ouvre le film, c'est-à-dire l'histoire de cette femme qui est menacée dans une voiture et qui appelle la police et qui tombe en téléopératrice sur Verley Batten, cette excellente actrice hein, qui a ce petit truc en plus, quoi, qui a, vraiment. Et il va se nouer une relation particulière entre elles. Et puis, le film, après, alors, le court-métrage s'arrête là, hein, jusqu'à temps qu'on arrête le type et tout. Le film que Delphine Girard va faire après la version longue de son film et va aller au-delà de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après ? Après, il y a le procès. Après, il y a ce type. Qu'est-ce qu'il devient ? Parce que, hop. Après, il y a cette femme. Qu'est-ce qu'elle devient ? Et puis, après, il y a cette téléopératrice. Cette téléopératrice qui se sent comme liée à cette femme. Elle a été très touchée par cet appel et qui va mener une enquête pour la retrouver parce qu'il y a, une question aussi d'anonymat. Elle ne sait pas qui est là forcément au téléphone et tout. Donc voilà. Et le film, Mon cher Thomas, un film noir, hein, très sombre, hein, même s'il y a une note d'espoir avec cette sororité qui se crée. Mais malgré tout, le film est très sombre. Un polar quand même très très tendu qui peut rappeler d'ailleurs aussi ce film avec Halle Berry qui s'appelle The Call de Brad Anderson, alors qui est plus spectaculaire, qui est plus américain. Le film qu'on voit, ce film qui démarre comme un polar, après il prend une autre direction et il choisit d'aller vers un film qui je trouve moi est intéressant parce que le traitement des personnages et en particulier le traitement de l'agresseur. Et je trouve un traitement, moi, que je trouve plutôt fin.
C'est vrai que le début est formidable. Hein. On est dans la cabine de cette voiture, cette femme qui appelle à l'aide. C'est pas spectaculaire, c'est très réaliste, monté en parallèle avec cette opératrice qui lui répond, qui essaye par des moyens détournés de la faire parler de façon à ce qu'elle n'éveille pas. La suspicion de son agresseur, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et ensuite, pour moi, on va plus vers le drame, mais pour moi, c'est un film sur le déni de la victime, parce que elle est pas sur le coup, elle est pas forcément persuadée pour porter plainte. Elle hésite. Il y a le déni de cet homme qui est persuadé qu'il n'a pas violé et qui est pas un mauvais type en fait. En plus, il s'occupe, il vit avec sa voisine qui est mère célibataire. Il s'occupe d'elle, il s'occupe de son enfant, etc. Il n'est pas décrit comme un salaud, quoi. Et lui est persuadé de ne pas être un salaud, alors qu'il a fait une saloperie. Mais c'est pas un salaud, enfin, dans l'absolu. Et il y a aussi le déni de cette opératrice. On devine qu'il lui est arrivé quelque chose dans son enfance. Hein, il y a une scène clé à un moment où on devine qu'il lui est arrivé quelque chose dans son enfance et que cette chose ressurgit. C'est vrai que le film est plutôt assez fin dans la façon dont il traite ses différents personnages, leurs différents parcours. Et puis cet homme qui finalement finit par... parce que chaque personnage, enfin tout du moins l'opératrice et le violeur, finissent par se rendre compte de ce qu'ils ont vécu. Et donc, il y a cette scène où il va demander pardon, mais peut-on pardonner à un violeur ? Mais moi, là où je décroche, c'est à la fin, la toute fin, quand l'opératrice va voir la victime, et puis ce plan final où elles sont dans une pièce, où elles préparent à manger ensemble, etc. etc. Là, je n'y crois plus. Je trouve ça très artificiel. Pour moi, c'est juste. Pour moi, c'est un étendard à ce moment-là. Je n'y crois plus. Je ne crois plus du tout à l'intrigue du film. Et c'est un peu une pirouette pour moi.
Oh, c'est pas très gênant parce que c'est la dernière minute du film. Hein, donc tout. Ça veut dire que le film t'a plu pendant 99% quand même. Bon, il faut le dire quand même aux spectateurs. Moi, en tout cas, je recommande quand même ce film hein, de Quitter la nuit de Delphine Girard. Moi, je le recommande grandement. Hein. J'ai vraiment trouvé que c'était un très bon film. Et effectivement, on peut. Sur cette dernière minute, est assez étonné par le final qui confère presque à l'étrangeté en fait. Voilà, c'est assez étrange parce que le film est très fin et subtil quand même. Donc, Mais après, après tout, c'est son droit à la réalisatrice. C'est-à-dire que si la réalisatrice pense, je pense très sincèrement, parce que le film est quand même assez brillant le reste du temps, je pense qu'elle pense très sincèrement que la solution passe aussi par la sororité, ce qu'on voit aussi dans la relation entre les deux sœurs. Je vais continuer, je reste toujours chez Blackout. Hein, je vais vous parler de deux films. Bon, je suis le seul à les avoir vus, là, ces deux-là. J'aurais bien mis, moi, je trouve qu'il vient bien, justement, le successeur de Xavier Legrand, il vient bien en complément à Quitter la nuit de Delphine Girard, parce qu'il y a, c'est une autre vision de la maltraitance qu'on fait aux femmes, en fait, qui est donnée là par Xavier Legrand. Alors, Xavier Legrand, on peut parler de ce film, Le Successeur, comme d'un prolongement, en fait, de son précédent film, hein, qui avait une histoire d'une femme battue au cœur de son intrigue, hein, dans Jusqu'à la garde. D'ailleurs, un peu comme Delphine Girard, d'ailleurs, Jusqu'à la garde, d'abord, c'est un court-métrage très, très impressionnant, très effrayant. Moi, j'adore, hein, de toute façon. Et après, il y a le long-métrage qui arrive, que j'aime énormément aussi, que je trouve formidable. Et après, bon, il y a Léa Drucker aussi, que je trouve tout le temps formidable, Léa Drucker. Et là, elle est vraiment formidable dans ce film-là. Et après, il y a ce successeur qui va arriver, qui est un film qui fait un peu un flop, en fait, en vérité. Il n'a pas eu une grande carrière en salle, on n'a pas beaucoup parlé. Pourtant, quel film étrange! On se croirait revenu à la meilleure époque d'Atom et Goyan. C'est vraiment un film très, très, très bizarre. Que seuls ceux qui l'ont vu me comprennent. C'est un film très, très étrange, très élégant dans sa mise en scène. Le héros, c'est Marc-André Gondin, c'est cet acteur québécois qui a eu son heure de gloire, hein, d'ailleurs, hein, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et là, il a pris un peu de l'âge, il est un peu plus costaud, tout ça et tout. Bon, c'est un bébé, hein, j'irai pas faire un match de rugby contre lui. Voilà, il a changé. Et là, il interprète un grand créateur de mode qui s'appelle Elias. Il est promu à la tête d'une grande maison de haute couture à Paris. Et puis, il apprend qu'à Québec, son père vient de mourir. Donc, il se rend au Canada afin de régler la succession et investit la maison paternelle désormais déserte. Et là, il va découvrir quelque chose dans la maison. Mais un truc que, si vous n'avez pas vu le film, je ne peux pas vous le dire. Et là, le film bascule dans un autre monde. Mais alors vraiment, c'est très malaisant. Je sais que le film a dérangé beaucoup de spectateurs. Le film a fait très peur. Je pense que c'est ça qui explique aussi peut-être son exploitation un peu chaotique. Le film est très, très étrange, très perturbant, très hitchcockien aussi. C'est un film avec une... Parce que moi, je trouve que c'est un réalisateur très hitchcockien, Xavier Legrand. Je trouve qu'il y a une grande maîtrise des scènes de suspense dans Jusqu'à la garde. Et là, le film débute par une intro zénitale, en spirale, comme ça, qui est la métaphore, en fait, des tourments de l'esprit de ce type créatif, dont on devine, en fait, que il y a un malaise à l'intérieur de lui, un malaise qui va ne cesser de s'amplifier, puisqu'il va découvrir quelque chose sur son père en allant dans cette maison. Quelque chose d'absolument, mais alors, terrible. Terrible, que je ne peux pas vous révéler aujourd'hui. Et donc, à partir de là, il y a un enfer. Il va vivre un véritable enfer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quelles vont être les décisions qu'il va devoir prendre? C'est très difficile de parler de ce film parce que, au bout d'une demi-heure, le film bascule dans autre chose. Alors, soit je vous le dis et je vous déflore le film, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, soit je vous laisse découvrir le film et je vous laisse soit l'aimer, soit le détester. Parce que moi, je comprends que ce film, on puisse le détester. Alors, par contre, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux beaucoup de trucs qui circulaient sur comprendre la fin du film. Bon, les gars, il faut revoir du cinéma quand même. Hein. La fin, on la comprend très bien. C'est assez clair. Voilà, mais je ne vous en dirai pas plus non plus. Je ne peux pas raconter la fin. En tout cas, ce que je vous invite, c'est à voir ce film très, très mystérieux qui prolonge les thématiques abordées dans Jusqu'à la garde, mais qui les prolonge d'une manière très étrange. Je vous dis, ça rappelle le meilleur d'Atom et Goyan. Donc, inutile de vous dire que c'est très malaisant. Donc, voilà. C'est un peu comme si Atom et Goyan avaient rencontré Haneke et De Palma. Alors... Pour les thèmes et l'ambiance, le film n'est pas un chef-d'œuvre. Hein. Je ne vais pas non plus vous vendre ce qui n'est pas vrai, mais par contre, le film est très perturbant. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça s'appelle Le Successeur, c'est un film de Xavier Legrand et c'est disponible donc chez Blackout. Et je vais terminer avec un film très récent, avec Léa Drucker, et oui, quand même, important, un film avec Léa Drucker, qui complaît une flic qui se rend dans sa région natale, alors que tout le monde l'a un peu oublié.
à Rochebrune, dans les Ardennes. Alors là, Rochebrune qui n'existe pas, en fait, hein, dans les Ardennes, mais par contre, c'est vraiment tourné dans les Ardennes. Et elle va rechercher donc un homme en fuite, qui est le titre du film, Un homme en fuite. C'est le premier film de Baptiste Debrault, qui filme dans sa région natale. Hein. D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'on apprend dans les bonus que donc Rochebrune n'existe pas, et que le réalisateur a été tourné dans sa ville d'enfance, mais il ne voulait pas en donner le nom, parce qu'il ne voulait pas être prisonnier du lieu pour pouvoir filmer quand même à d'autres endroits. Moi, je trouve que c'est un paradoxe qu'en dit long sur le film, en fait. Hein, voilà. Très sincère, maladroit par moment, mais très sincère, qui est donc alors figure du polar classique, Léa Drucker y va pour retrouver donc un certain Johnny. Johnny qui est campé par Pierre Lotin, qui est toujours parfait pour jouer ses personnages à vif, la fleur de peau. Et en parallèle, il y a Bastien Bouillon, qui vient d'une famille riche, qui avait avant la fonderie du village, qui l'a revendu il y a quelques années à des actionnaires peu scrupuleux, là, qui sont en train de la liquider. Et du coup, le village, enfin la ville est en ébullition, il y a une grève générale pour soutenir les gens de la fonderie, qui sont tous en grève. Et parce que sinon, il y a toute l'économie de la ville va s'écrouler parce que tout repose sur cette fonderie. Donc les hôpitaux sont en grève, les éboueurs sont en grève, et voilà. Et c'est dans ce décor que se rend donc Bastien Bouillon, hein, qui était le héros de la nuit du 12, qui l'a fait donc ce fils de bourgeois qui revient après 15 ans d'absence et qui va essayer de retrouver cet homme en fuite. Cet homme en fuite, c'est Johnny. Johnny, c'est son ami d'enfance, c'est-à-dire le fils de prolo, le pauvre type qui a une vie de merde, qui connaît pas son père, dont la mère va mourir alors qu'il est très jeune, et qui est copain avec ce gamin, fils de Bourges, qui va lui amener de la culture, qui va lui amener Robert Louis Stevenson, surtout l'île au trésor. Et les deux gamins, entre eux, ils vont se construire leur île au trésor. Et il n'a pas oublié cette amitié et il veut retrouver son pote. Parce que Johnny, en fait, c'est un étrange personnage. C'est le Robin des Bois de la ville. C'est-à-dire que Johnny, qu'est-ce qu'il fait pour que les mecs de la grève tiennent? Il va faire des braquages. Et là, il a été braqué un fourgon, il a tué un mec. C'est pour ça que tout le monde le recherche. Et parce que son but, c'est de redistribuer l'argent. Enfin bref, c'est un personnage un peu une sorte de héros. Tout n'est pas très réaliste dans ce film. Hein. Il y a l'importance du conte, de la mythologie et tout ça, ce qui confère un aspect plutôt sympathique au film. C'est un film d'atmosphère, Un homme en fuite, donc de Baptiste Debrault. C'est un premier film. Il y a plein de belles idées de mise en scène. Il y a des très bons acteurs. Le scénario, il y a pas mal de choses déjà vues, de poncifs, mais je trouve que par l'habileté de la mise en scène, par la sincérité du metteur en scène, on a envie de voir d'autres films de Baptiste Debrault. Et donc, je vous conseille Un homme en fuite qui est disponible chez Blackout. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Rolandi, le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.